Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois de mars, consacrée comme deux fois par mois à la promotion et à la défense des droits humains. Et pour animer l'émission avec moi, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Donc voilà, donc une heure pour parler de la défense des droits humains, comme on vous l'a dit, à travers pas mal de pays différents et pas mal de sujets différents. Donc restez à l'écoute jusqu'à 20h avec nous. Et on va commencer par, bien sûr, autour du 8 mars, c'est le jour anniversaire de la Journée internationale pour les droits des femmes. Et donc, on était présents le vendredi 8 mars dernier, ici à Évreux, au rassemblement et à la manifestation qui avait été organisée à l'appel de l'association Nous Toutes et de la CGT, concernant effectivement le respect des droits des femmes. Et donc, il y a eu pas mal de prises de parole pendant le rassemblement. On a dit nous-mêmes quelques mots sur les droits des femmes afghanes, mais on vous en dira un peu plus tout à l'heure sur ce sujet. Et on a aussi participé à la manifestation. Bon, Claire-Lise était là aussi. Et je pense qu'on a un petit regret, c'est qu'on n'était quand même pas très nombreux. Il faut bien le dire. Voilà. Et pendant qu'on parle des droits des femmes, je voulais faire un petit enchaînement avec la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le formulaire sur le site d'amnesty.fr. Et donc, dans cette chronique du mois de mars, il y a un petit édito qui est consacré justement à cette thématique du droit des femmes. Et je vais vous lire simplement la deuxième partie de cet édito concernant un rendez-vous raté. Donc c'est le 6 février dernier, l'accord entre les États membres de l'Union européenne sur une directive contre les violences faites aux femmes. Il a supprimé l'article 5, donc ce vote a supprimé l'article 5 qui définit le viol à partir du consentement. Au cours de longs mois de négociations, la France aurait dû se placer du côté des femmes et des filles victimes de violences. Au lieu de cela, elle s'est opposée avec 9 autres États-pays, avec 9 autres pays, l'Allemagne, la Bulgarie, la Hongrie, Malte, Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, à l'intégration de l'article criminalisant le viol à l'échelle européenne par une définition fondée sur le consentement. Faute d'un accord, ce crime ne figurera donc pas sur la liste des infractions liées à l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Une uniformisation de la définition du viol dans l'Europe aurait été une avancée notable pour les droits des femmes et des filles et en parfaite cohérence avec les objectifs féministes de la France. Et donc, le président qui a signé, d'Amnesty France, qui a signé l'édito conclut, quel renoncement. Voilà. Mais toujours sur les droits des femmes, je crois qu'il y avait Claire-Lise qui avait aussi des choses à nous dire.
Eh bien oui, je vais vous parler d'une victoire historique. Donc la France est devenue le lundi 5 mars 2024 le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. 49 ans après la promulgation de la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement. Les parlementaires français réunis en congrès à Versailles ont voté à une écrasante majorité en faveur de l'inscription dans la loi fondamentale de la liberté garantie pour une femme d'avoir recours à une IVG. Une victoire pour toutes les personnes qui défendent ce droit en France et dans le monde. À 4 jours du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, cette réforme a introduit à l'article 34 la phrase « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Un moment historique pour les droits des femmes et des personnes pouvant être enceintes dans le monde. Ce vote historique revêt une importance considérable compte tenu du recul de ce droit essentiel à travers le monde. la protection de la liberté d'accès à l'avortement constitue un rempart important contre les mouvements anti-droits de plus en plus virulents, a réagi notre secrétaire général Agnès Callamard. La constitutionnalisation de l'avortement est un point culminant pour les droits des femmes et un témoignage des années de campagne inlassable de tant de personnes. Elle envoie un message de solidarité aux femmes, aux groupes de femmes et à tous les défenseurs de l'avortement et des droits sexuels et reproductifs. Voilà pourquoi. Premièrement, pour prévenir une remise en cause de l'IVG. Pour nous, la constitutionnalisation de l'IVG est un symbole important vis-à-vis des pays qui restreignent ou qui criminalisent le droit à l'avortement. En consacrant le droit à l'avortement, la France affirme sa volonté qu'elle ne reviendra pas dessus, garantit que jamais ce droit ne sera remis en cause et qu'aucune régression ne sera possible. Nous considérons que ce texte est un message fort pour toutes les femmes, les filles et toutes les personnes pouvant être enceintes dans le monde. Il constitue un symbole important vis-à-vis des pays qui restreignent le droit à l'avortement, comme aux États-Unis, où la Cour suprême a annulé en 2022 l'arrêt Roe contre Wade, pierre angulaire du droit à l'avortement et de la liberté des femmes à disposer de leur corps dans tout le pays et qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral depuis 1973. Cette décision est un retour en arrière tragique qui pourrait inspirer d'autres gouvernements opposés à la protection de ce droit, mettant en péril la vie de millions de femmes, de filles et de personnes pouvant être enceintes. En France, plusieurs parlementaires de différents pays, partis politiques, avaient réagi à la décision de la Cour suprême des États-Unis en demandant l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française, un acte fort qui permettrait de consacrer ce droit fondamental. Le président Emmanuel Macron s'y était engagé le 8 mars 2023 à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. L'avortement est un droit fondamental. Toute personne dispose du droit à la vie dès la naissance, du droit au respect de la vie privée, du droit à la santé, du droit à l'égalité et à une protection égale devant la loi, sans discrimination, ainsi que du droit de ne pas subir de violence, de discrimination, d'actes de torture ou d'autres formes de mauvais traitement. Amnesty International reconnaît que le droit à un avortement sécurisé fait partie des éléments essentiels permettant de garantir la protection de chacun de ses droits. Les droits humains sont universels, indissociables et intimement liés. Cela signifie que les droits sexuels et reproductifs, notamment le droit à l'avortement, sont fondamentaux pour la réalisation pleine et entière de tous les autres droits. La liberté contre le droit. Pour autant, la formulation approuvée par les parlementaires français pour garantir la liberté d'accès à l'avortement n'est pas contraignante. En inscrivant explicitement le mot « droit » à l'avortement, l'État aurait été obligé de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour le garantir. Nous aurions préféré une rédaction consacrant le droit d'avorter qui aurait permis de contraindre l'État à mettre les moyens pour le garantir à celle de liberté qui renvoie aux conditions d'exercice de celle-ci. Nous demandons une approche plus inclusive ainsi que le droit à l'avortement soit garanti non seulement aux femmes mais aussi aux hommes transgenres et aux personnes non binaires. C'est aussi un exemple pour les autres pays. En inscrivant l'avortement dans sa constitution, la France est le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans son arsenal constitutionnel. Un garde-fou indispensable là où encore en Europe ce droit est toujours menacé. En témoigne le cas de la Pologne où il est aujourd'hui interdit d'avorter, sauf en cas de viol. De nombreuses personnes qui ont manifesté pour s'opposer à ces législations liberticides ont été violemment réprimées par la police. Des pays comme Malte ou Andorre criminalisent toujours l'avortement. L'avortement étant désormais inscrit dans la loi fondamentale, nous resterons vigilants à l'effectivité et à la non-discrimination dans l'accès à ce droit. Mais en Europe, le combat continue. Les associations féministes et les défenseurs, défenseuses des droits humains continuent d'être la cible de poursuites pour avoir défendu le droit à l'avortement. Après 3 ans de poursuites judiciaires, la militante Vanessa Mendoza-Cortez, en Andorre, vient d'être acquittée. Elle était poursuivie pour avoir dénoncé l'interdiction totale du droit à l'avortement en Andorre. Nous soutenons également depuis plusieurs années Justyna Wydrzyńska en Pologne, condamnée pour avoir aidé une femme à avorter. Ces défenseurs du droit à l'avortement sont harcelés par les autorités de leur pays simplement pour avoir défendu ce droit fondamental. Voilà, donc c'était par rapport à justement à la liberté d'avorter, la liberté pour les femmes d'avorter qui a été inscrite dans la Constitution. C'est pas tout à fait pareil que le droit à avorter.
Non.
C'est ça, Didier.
Tout à fait. C'est bien regrettable, effectivement, que ce terme de droit n'ait pas été retenu. J'ai cru comprendre que c'était suite à des négociations et, au niveau des partis politiques, puisque certains s'opposaient à cette notion de droit. On ne citera pas lesquels, mais ce n'est pas difficile à trouver.
Ceux qui sont à droite.
C'est ça. Et donc, finalement, le terme de liberté a permis de mettre tout le monde d'accord. Mais comme tu disais, Claire-Lise, effectivement, le terme de droit entraînait des obligations, y compris au niveau des moyens médicaux à mettre en place ou à préserver pour que les femmes puissent avorter, accéder à l'avortement dans des conditions médicales les plus sécures possibles. Et la liberté, effectivement, n'entraîne pas ces conséquences-là, le terme de liberté. Voilà. Donc, on peut le regretter sincèrement.
Ça ne protège pas... Ça ne le rend pas inaliénable dans le droit.
C'est ça. Mais ça l'inscrit quand même dans...
C'est quand même...
Alors, c'est marqué que quand
dans
même,
le socle de la Constitution.
L'État garantit la liberté.
Oui, tout à fait. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a une nuance qui est quand même à souligner et qui est dommage. Voilà.
Oui, surtout quand on sait que ça manque quand même dans beaucoup d'hôpitaux. Beaucoup de plateformes sont...
Les moyens ne sont pas là, vraiment.
Exactement. Je crois que c'était Edith que vous venez d'entendre, mais je crois qu'elle voulait absolument prendre la parole aussi sur ces thématiques-là.
Non, quand on fait notre petit plan pour la radio, on essaye de mettre des choses qui vont ensemble.
Ça s'appelle le conducteur.
Oui, mais là, le conducteur, ça, quand les gens écoutent ça, ils se demandent qu'est-ce qui conduit, voilà. Donc, moi, j'avais aussi récupéré un petit article sur une femme, une militante lesbienne en Argentine. Donc, elle s'appelle Pierina Nocetti. C'est une militante LGBTQIA+. Et elle est accusée de dommages avec circonstances aggravantes pour avoir fait un graffiti en signe de protestation contre la disparition d'un jeune homme transgenre en Argentine. Et son procès... C'est ouvert, là, ce 6 mars 2024. Elle encourt jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Alors, Amnesty demande effectivement que les autorités abandonnent les charges qui pèsent contre elle, qui semblent constituer une restriction injustifiée et disproportionnée du droit à la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pierina Docetti a relayé les appels à la justice en relation avec la disparition d'un jeune homme transgenre, TUL de la Torre, le 11 mars 2021. Et elle a notamment peint un graffiti qui demande « Où est TUL ?» sur un mur de Necochea, une ville côtière argentine. Elle fait maintenant face à des poursuites pénales et risque 4 ans d'emprisonnement pour ce signe de protestation. Pierita Nocetti a déjà été sanctionnée par les autorités locales pour lesquelles elle travaille, qui lui ont déjà infligé des sanctions administratives, notamment une réduction de salaire pendant une période de 10 jours. Ces poursuites surviennent après que Pierita Nocetti a parlé à ses supérieurs des inégalités qu'elle subissait en matière de conditions de travail et de traitement par sa direction, qui sont susceptibles d'être liées, pense-t-elle, à son orientation sexuelle et à son identité de genre. Alors l'Argentine, malgré les avancées importantes au cours des dernières décennies, les personnes LGBTQIA+, en Argentine, principalement les personnes trans et non binaires, continuent à subir de graves discriminations dans l'accès à leurs droits à la santé, à l'emploi, à l'éducation et au droit de vivre à l'abri des violences fondées sur...
Pourquoi tu dis ça ?
Claire-Lise, elle me pique la suite de mon article après.
Ah, mais non.
Les auditeurs voilà. Et les auditrices donc, n'ont pas l'image.
Désolée, mais il y a eu je suis obligée de sévir.
Un petit quiproquo entre Edith et Claire.
Mais on l'a pas fini.
Alors, je reprends. Alors,
la pauvre Edith, on va la déconcentrer.
Ben non, je vais reprendre ma phrase. Donc, Pierita Nocetti et les autres personnes LGBTQIA+, subissent de graves discriminations dans l'accès à leurs droits à la santé, à l'emploi, à l'éducation et au droit de vivre à l'abri des violences fondées sur leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Amnesty note poursuivre une militante LGBT+, uniquement parce qu'elle aurait peint un graffiti sur un mur public sans être une sanction absolument injustifiée et disproportionnée. Il y a un appel à action. Alors, moi j'aime bien aller voir, vous savez, sur Amnesty Belgique aussi. Donc l'appel à action, il est sur amnesty.be, vous allez voir ça. Et il faut absolument abandonner les charges à l'encontre de Pierita Nocetti. Donc vous allez sur le site, vous regardez Action en ligne et vous pouvez signer cette pétition. En plus, son procès vient juste de commencer, donc là, il faut absolument se bouger. Donc je rappelle, sur Amnesty Belgique. Voilà, mais et
merci.
Effectivement...
Et tu n'avais pas fini.
Mais non, c'est pour ça, elle me prend mon article.
Mais non, c'était pas cet article-là, c'était parce que je voulais bon, juste rajouter un petit truc, mais c'est pas grave.
Ça va être, tu vas pouvoir le faire. Oui, parce que ce que je voulais, c'est vous dire, voilà, effectivement, cette, la problématique de Pierita, c'est en Argentine, on se dit, ouais, c'est loin et tout. Mais non, aussi en Italie, tous les droits des familles LGBT sont vraiment très, très compliqués. Alors... L'article s'appelle « Lesbophobie assumée ». Alors, oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT. Cela, c'était le credo de la candidate Giorgia Meloni en 2022. Devenue première ministre, tout le monde le sait, la chef du parti nationaliste Fratelli d'Italia entend bien passer de la parole aux actes. En ligne de mire, les enfants nés de couples de femmes. Votée en 2016, avant son arrivée au pouvoir, sous le gouvernement Renzi, la loi sur l'union civile permet aux couples de personnes de même sexe de bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels mariés, mais n'aborde pas la question de la filiation. Ces dernières années, plusieurs mairies ont donc pris la liberté d'inscrire sur les actes de naissance le nom des deux parents, quel que soit leur genre. Mais, il y a un an, le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedossi, a mis fin à ses initiatives en envoyant une circulaire aux mairies du pays. Celle-ci exige que seule la mère biologique figure sur les documents officiels. Et pour se mettre en conformité avec cette directive, le zélé parquet de Padoue a contesté l'été dernier l'inscription sur les actes de naissance des mères non biologiques d'une trentaine d'enfants nés depuis 2017. Retirer à un enfant de 6 ans le nom de l'un de ses parents, ce n'est pas un simple acte administratif. Cela signifie que ce parent, en matière de droit, n'existe pas, a commenté l'avocat spécialisé dans la défense des droits LGBT+, Alexander Schuster. Alors, si les magistrats de Padoue confirment cette décision dans les prochaines semaines, les parents rayés des papiers administratifs devront entamer de lourdes démarches d'adoption pour espérer être à nouveau reconnus comme dépositaires de l'autorité parentale de leurs propres enfants. Alors là, ça se passe en Italie. Et on pourrait faire un commentaire par rapport à ce que Didier nous a pointé sur le fait d'inscrire l'avortement dans la législation. Là aussi, les Italiens n'ont pas été jusqu'au bout. C'était pas bien borné pour garder les deux parents biologique et non biologique par rapport aux enfants.
Oui, et ça me
voilà, Claire Lise, à tes commentaires.
Et ça me rappelle.
Oui, mais puisque tu ne veux pas me présenter, je dirai la prochaine fois.
Bon, on va passer à une pause musicale pour rétablir la bonne entente entre nos deux animatrices, parce que là, effectivement, le désaccord continue.
Mais non,
il n'y a pas de souci. On va devenir complices. Oui, ça va.
Mais ça me rappelle ce que vient de nous rappeler Edith par rapport à l'Italie, ce qui avait été dit aussi quand la France a inscrit le mariage pour tous dans sa législation et toutes les manifestations qui avaient eu lieu. Une des raisons pour lesquelles Amnesty France avait soutenu ce projet de loi pendant la présidence de François Hollande, c'était, entre autres, c'était pas le seul argument, mais c'était aussi parce que si on ne faisait pas rentrer ce mariage pour tous dans la législation, les enfants issus de couples homosexuels, que ce soit des hommes ou des femmes, n'avaient pas les mêmes droits, en fait, que les enfants issus de couples hétérosexuels, et que les droits des enfants, c'est universel et qu'il ne doit pas y avoir de différence. C'était un des arguments. Et ce que vient d'expliquer Edith, c'est que avec ce genre de mesures en Italie, on revient sur ce droit universel des enfants à disposer de droits équivalents entre tous.
N'allez pas habiter à Padoue, parce que manifestement, ils ont l'air très très près de Giorgia Meloni, parce qu'effectivement, ils pourraient avoir une liberté de ne pas revenir en arrière sur je ne sais pas combien d'années.
Tout à fait. Pause musicale, on se retrouve juste après.
ينقص في سلاحف بحري يقتل حيوانات بشري تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية تنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية تلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياتي وتلك قضية وتلك قضية كيف نام قرير العين وضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع سنسينا ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعل في رهاب القاتل تجمع أشلاك وتاتي وتوري الدنيا الكدابة من أين حر وما تعيش مسلم دلي مجيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين فين كما شئت.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission. On vient d'écouter, c'est un petit suite à un article là aussi qui est paru dans la dernière chronique d'Amnesty, un article sur musical sur un groupe égyptien. Donc c'est ce qu'on vient d'entendre effectivement. Le morceau s'appelle, alors je vais vous le redire, Telk Kadeya et le groupe s'appelle Kleroki. Et c'est une chanson, bon c'était en arabe bien sûr, mais une chanson dédiée à la liberté et qui fait apparemment un malheur en Égypte et dans d'autres pays arabes, donc tant mieux.
Voilà. Alors je crois que c'est toi qui continue là Didier.
Oui, je continue et on va partir, alors là on va complètement...
C'est Didier le conteur.
Quitter les droits des femmes, mais on va parler d'une chose positive, voilà, c'est aussi tiré de la chronique, décidément. Et ça se passe aux États-Unis et ça s'appelle Daniel G. Jones contre la CIA. Alors je vais juste vous lire le début de l'article et je vais vous résumer après effectivement ce qui est dit. C'est quelqu'un qui a obtenu effectivement gain de cause pour dénoncer l'utilisation faite par la CIA, l'utilisation de la torture pour interroger après les attentats du World Trade Center. Mais revenons en arrière. On imagine l'Américain moyen partir à la découverte de son pays lorsque sonne l'heure de la retraite ou s'inscrire à des cours de danse country. On l'imagine moins créer une entreprise spécialisée dans la torture au service de la CIA. C'est pourtant ce qu'ont fait l'ex-lieutenant-colonel James Elmore Mitchell et son acolyte John Bruce Jessen. Après une dizaine d'années au sein de l'armée de l'air, James Mitchell décide de reprendre les études au mi-temps des années 80. Il obtient un doctorat en psychologie à l'Université de Floride du Sud. Son mémoire compare les différences entre régime et exercice physique pour contrôler l'hypertension. Embauché comme psychologue en chef de l'US Air Force Survival School à Spokane, dans l'État de Washington, il y rencontre Bruce Jensen, doté du même diplôme et engagé dans l'armée de l'air. Les deux hommes enseignent aux soldats les techniques du programme SER, ça veut dire survivre, s'évader, résister et s'échapper, conçu après la guerre de Corée en 1950 et 1953, ou comment réagir lors d'une capture derrière des lignes ennemies qui ne feraient que peu de cas des conventions de Genève. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont fracassés par l'attentat du World Trade Center. Le gouvernement Bush donne carte blanche à la CIA pour trouver des coupables et, je tourne la page, et prévenir de nouvelles agressions. Les services secrets américains veulent obtenir le plus rapidement possible des informations de leurs prisonniers. Ils contactent nos deux experts du programme SER, retraités depuis peu. Lors d'une réunion le 1er avril 2002, Mitchell et Jensen confessent ne pas être spécialistes de la culture arabe ni de la structure organisationnelle d'Al-Qaïda. Les deux hommes n'ont d'ailleurs jamais conduit d'interrogatoire. Cela ne les empêche pas de développer leur théorie sur la meilleure manière de faire parler les suspects. L'essentiel est de leur faire croire qu'il est futile de résister, explique-t-il. Donc effectivement, à la suite de ça, on en avait déjà parlé dans nos émissions il y a un certain temps, mais à la suite de ça, effectivement, la CIA, de façon très, très cachée, a réutilisé, avec leur aide, la torture pour faire parler les prisonniers arrêtés après les attentats du World Trade Center. On rappelle que la torture, effectivement, est absolument interdite par le droit international, bien évidemment. Et entre autres, dans ces méthodes utilisées par la CIA pour faire parler les gens, l'ancien prisonnier pakistanais Ahmed Rabbani, qui avait été arrêté après les attentats du World Trade Center, explique ainsi avoir été suspendu par les poignets à une chaîne reliée à une barre métallique horizontale, ses pieds touchant à peine le sol pendant plusieurs jours dans l'obscurité totale, une technique préconisée par le duo Mitchell-Jensen dont on vient de parler. Bon, ça c'était sans compter sur le fait qu'il y a un autre personnage dont je vous parlais au début de l'article, qui s'appelle donc, je vais reprendre son nom, qui s'appelle donc Daniel G. Jones, qui a entendu parler de cette façon de faire. Donc, et qui effectivement, ces tortures utilisées par la CIA, bah, ça l'a fondamentalement heurté. Donc l'article continue pour dire c'était cette utilisation de la torture, c'était sans compter sur la pugnacité d'un certain Daniel G. Jones. En 2007, cet ancien étudiant de Harvard quitte le FBI pour rejoindre la commission spéciale sur les renseignements du Sénat. Héritée du Watergate, elle surveille les activités des agences de renseignement américaines, dont la CIA. Et effectivement, alors je ne vais pas vous lire tout l'article, mais effectivement, cet article explique que grâce à l'aide d'une députée du Sénat américain, il a pu effectivement enquêter sur cette utilisation de la torture, préconisée par nos deux sbires dont on parlait tout à l'heure, cette utilisation de la torture faite par la CIA et tous les mauvais traitements qui en découlaient. Donc, pendant plusieurs années, il consacre l'essentiel, donc Daniel G. Jones consacre l'essentiel de son temps, week-end compris, à enquêter sur ces pratiques. Au cours de ses recherches, il s'étonne dans des documents mis à sa disposition que la CIA fait disparaître peu à peu des serveurs. C'est-à-dire que lui, il accède à des documents et après, il les retrouve plus, très bizarrement. Il décide alors de protéger un minimum de preuves et se rabat sur le compte-rendu Panetta, un rapport interne produit par la CIA sur l'utilisation de la torture. Il en imprime quelques extraits édifiants qu'il glisse dans son sac sans autorisation. Alors il dit, étant donné que la CIA avait déjà détruit des preuves dans le passé, j'ai pensé qu'il était prudent de relocaliser le document dans les coffres du Capitole. Bon, encore une fois, ses travaux l'amènent a publié un document qui fait 6700 pages, donc c'est impressionnant, avec 38 000 notes en bas de page et qui dénonce ces exactions de l'utilisation de la torture par la CIA. À la suite de quoi, effectivement, l'État américain, qui était alors gouverné par Barack Obama, s'inquiète de cette façon de faire. Et Barack Obama déclare « L'une des forces qui rendent les États-Unis exceptionnels consiste en sa volonté de se confronter ouvertement à son passé, de faire face à ses imperfections et de s'améliorer. » Bon, cette déclaration très diplomatique ne convainc pas effectivement complètement Daniel Jim Jones, mais qui continue ses investigations effectivement et qui a permis de dénoncer clairement l'utilisation de la torture faite par la CIA et d'éviter qu'il y ait un certain nombre de personnes arrêtées après les attentats du World Trade Center, n'est pas continué à être torturé. Voilà. Donc l'article se termine en disant le rapport de la commission qu'il a produit a prouvé en plus la totale inefficacité de ces techniques d'interrogatoire renforcées, car elles n'ont été à l'origine d'aucune information utile à la traque d'Oussama Ben Laden. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement son travail, c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte.
Bah oui, mais lui, il a eu de la chance, hein, parce qu'il y en a d'autres là qui sont quand même, on va en parler, en prison ou qui sont vraiment embêtés. Je pense que c'est le côté d'avoir trouvé une aide un peu peut-être des sénateurs,
c'est ça,
voilà,
c'est ça.
Qui ont fait que bon, il a pu aller jusqu'au bout, parce que les États-Unis, pour reconnaître aussi qu'ils ont torturé après les attentats, ça a été compliqué. Et Amnesty l'a dénoncé, y compris les avions qui prenaient les gens d'un pays à l'autre, des choses quand même assez terribles, quoi.
Et puis la torture avait été faite par la CIA, mais très souvent dans des pays tiers.
On les prenait, on les kidnappait, voilà. Et ces pays qui étaient
On les faisait disparaître et on les faisait torturer ailleurs que sur le territoire des États-Unis, évidemment. Voilà. Mais donc, ça a été quand même mis à jour et dénoncé et un petit peu, disons, relativisé ou réduit, les exactions et l'utilisation de la torture, grâce au travail de ce Daniel G. Jones. Donc, c'est pour ça que la chronique l'a salué dans un très récent numéro et que je voulais vous en parler. Voilà, j'ai oublié ce qu'on faisait au niveau du conducteur pour continuer, mais c'est Edith que vous venez d'entendre qui va vous parler, je crois, d'Amazon.
Voilà, donc Amazon, carrément autre chose. Là, on n'est pas dans les lanceurs d'alerte, on est dans les ouvriers qui sont piégés. Donc, il y a quelque temps, j'avais déjà vu un article sur la situation des ouvriers travailler pour Amazon en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, on vous en a parlé plusieurs fois, tous les pays arabes où vraiment le droit au travail, le droit à la personne est complètement bafoué, puisque des personnes étrangères qui viennent travailler, on leur pique leur passeport. Il y a tout un système de califat qui fait que ils ont plus de droits quoi quand ils sont là-bas. Et là, c'est sous la banderole d'Amazon. Alors là, l'article que j'avais vu en premier il n'y a pas très longtemps, c'était que des dénonciations, les gens qui disaient les mauvais traitements, ils avaient été par des entreprises de sous-traitement, alors qu'eux, ils avaient signé avec Amazon. Et j'ai vu, ça arrive quand même, pour les droits humains, même à Amnesty, Amazon a une bonne nouvelle. Donc, rappel, en octobre 2023, Amnesty publie le rapport « Don't worry, it's a branch of Amazon ». Bon, moi, je n'ai pas l'accent anglais, mais vous avez tous compris.
Oui, on a compris.
Ne soyez pas désolés, c'est une branche d'Amazon. Alors, ce document détaillait de manière, la manière dont les employés sous contrat dans les entreprises d'Amazon en Arabie Saoudite ont été trompés par des agents de recrutement et des sociétés de fourniture de main-d'œuvre. Ils ont été spoliés de leurs revenus, logés dans des conditions épouvantables et se sont vus empêchés de changer d'emploi ou de quitter le pays. Beaucoup ont été très probablement victimes de la traite d'êtres humains. Le rapport montre qu'Amazon n'a pas pris la mesure afin d'empêcher que ces travailleurs ne subissent de multiples atteintes aux droits humains, alors même que l'entreprise avait reçu des plaintes directes sur la manière dont ils ont été traités pendant de longues périodes. Oui. Premier article mettait qu'il y avait régulièrement des réunions. Donc, ils avaient quand même quelques échos que ça ne se passait pas très bien. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'Amazon a annoncé ce jeudi 22 février, avoir versé 1,9 million de dollars américains pour rembourser plus de 700 travailleurs embauchés par les sous-traitants pour des opérations en Arabie Saoudite à la suite de la publication d'un rapport d'Amnesty. Le remboursement par Amazon des frais de recrutement illégaux est une étape essentielle pour fournir un recours à des centaines de travailleurs migrants qui ont subi une série de graves violations du droit du travail alors qu'ils étaient sous contrat en Arabie Saoudite pour le compte de l'entreprise. Bon, bien que ces paiements apportent une aide immédiate aux travailleurs qui ont souvent dû contracter des dettes importantes pour avoir la possibilité de travailler pour Amazon, ils doivent aller de pair avec des mesures beaucoup plus strictes pour garantir que de telles atteintes aux droits humains, qui peuvent être assimilées à un trafic de droits d'êtres humains dans un certain cas, ne puissent plus jamais se reproduire. C'est ce qu'a déclaré Steve Cockburn, responsable du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International. Et on note que si elle avait été mise en œuvre d'une meilleure diligence requise et répondue efficacement aux plaintes des travailleurs, Amazon aurait pu prévenir ces atteintes. Les réparations doivent aussi être apportées à des centaines d'autres travailleurs embauchés par Amazon et qui ont déjà quitté l'entreprise ou le pays et qui sont susceptibles d'avoir eux aussi été victimes d'abus similaires, notamment de tromperies, de vols de salaire et de frais de recrutement élevés. Eux aussi méritent justice et réparation. Donc là, on espère que ça va suivre et Amnesty va sûrement suivre pour qu'il y ait une antériorité sur les premiers travailleurs pour Amazon en Arabie. Ce qu'on note aussi, c'est que l'expérience de ces travailleurs d'Amazon est loin d'être unique, compte tenu du risque élevé d'exploitation qui existe dans le cadre du système de parrainage que je vous parlais, Khalafa. Je n'ai pas dû bien dire tout à l'heure. C'est le Khalafa, le parrainage en Arabie Saoudite. Et cette affaire, on espère, doit servir de leçon aux autres entreprises opérant dans ce pays afin qu'elles prennent, dès le début, toutes les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes aux droits humains et y remédier lorsqu'elles se produisent. Lorsque les entreprises ne prennent pas au sérieux leurs responsabilités en matière de droits humains, ce sont les travailleurs qui en paient le prix. Voilà.
Donc, on note quand même que la mobilisation d'Amnesty, encore une fois, a servi à quelque chose.
A servi. Et là, bon, Amazon se veut, on va dire, oui, un petit peu plus clair. Et donc, mais là, il faut encore qu'il continue. Là, 1,9 million, ça semble énorme, mais on veut dire effectivement le nombre de personnes qui ont été spoliées.
Oui, tout à fait. Je crois que c'était maintenant Clairelys qui voulait vous parler d'autres choses.
Oui, parce que c'est un article que je n'ai pas pu aborder la dernière fois, parce que vous en avez déjà trop d'articles, il y a 15 jours. Donc, cette fois-ci...
À toi, sans faute.
Voilà, Donc, je vais vous parler de 5 outils numériques qui sont utilisés aux frontières dans le monde contre les personnes exilées. Alors, détecteur de mensonges, garde frontière gérée par l'intelligence artificielle, demande d'asile traitée par les algorithmes. De plus en plus d'outils numériques sont développés par les États pour contrôler les frontières. Au détriment des droits des personnes exilées, tour d'horizon de certains outils utilisés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs pays de l'Union européenne. Un mur virtuel érigé contre les personnes exilées, c'est bien ce à quoi nous pourrions être en train d'assister. Lorsque des États en viennent, par exemple, à utiliser la reconnaissance des émotions grâce à l'intelligence artificielle pour plus de contrôle aux frontières, l'IA dérive. La course effrénée aux nouvelles technologies a ses limites. Nous n'accepterons pas des technologies qui vont à l'encontre des droits humains. Donc voici un aperçu de 5 outils numériques donc utilisés par l'Union européenne, par les États-Unis, par le Royaume-Uni, donc aux frontières de leur pays. Nos équipes d'Amnesty Tech les ont recensés. Premièrement, des détecteurs de mensonges, reconnaissance faciale et d'émotions aux frontières de l'Europe. Donc un détecteur de mensonges fonctionnant à l'intelligence artificielle pour contrôler les frontières. Ce dispositif inquiétant est financé par l'Union européenne, baptisé Border Control. Le projet a été testé en Hongrie, en Grèce et en Lettonie. L'idée, c'est remplacer les gardes frontières par des logiciels pour réaliser un premier filtre. Le fonctionnement. Lorsqu'une personne exilée franchit une frontière, elle est soumise à un interrogatoire virtuel qui fonctionne par détecteur de mensonges. L'algorithme a été développé de façon à évaluer les moindres détails des expressions via la reconnaissance faciale, fréquence des clignements des yeux, direction du regard, changement de ton de la voix, tout est passé au crible. L'objectif, discerner les déclarations considérées comme mensongères. Le garde-frontière virtuel pose des questions à la personne exilée, comme son nom, son pays d'origine, le motif de son voyage, etc. Si le système estime que la personne a répondu honnêtement aux questions, elle reçoit un code lui permettant de franchir la frontière. Si la personne a échoué, elle est réorientée vers des gardes-frontières physiques et sera soumise à un interrogatoire plus poussé. L'outil utilisé, c'est les technologies de reconnaissance faciale et émotionnelle. Ce type d'exemple, qui semble tout droit sorti d'une fiction, montre les dérives de l'utilisation de la reconnaissance faciale. Autre outil, des drones au-dessus de la Méditerranée, donc pour empêcher les bateaux d'atteindre les côtes. L'Union européenne déploie une surveillance aérienne en temps réel, ainsi que des drones au-dessus de la Méditerranée. C'est l'Italie et Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui utilisent ces technologies. Lorsqu'un bateau est identifié par les drones, la position est signalée aux autorités libyennes, déclenchant ainsi leur intervention. L'Union européenne permet donc aux gardes-côtes libyens d'intercepter les bateaux et de ramener les personnes exilées en Libye. Nous viennent alors en tête les images atroces des centres de détention de personnes exilées en Libye, où elles vivent un véritable cauchemar. Torture, violences sexuelles, travail forcé, ventre d'êtres humains. C'est insoutenable. L'Union européenne se rend complice de ces atrocités. Au lieu d'y mettre fin, l'Europe aide la Libye à piéger ces personnes dans l'enfer. Troisième outil, une application rendue obligatoire pour demander l'asile aux États-Unis. Depuis mai 2023, la demande d'asile aux États-Unis repose en grande partie sur une application, le CBP One. Elle est le nouveau passage obligé pour les personnes demandant l'asile aux États-Unis. Elle est aussi et surtout devenue leur pire cauchemar. Ses défenseurs nous vous répondront qu'elle permet d'automatiser l'ensemble des demandes d'asile déposées. Écran de fumée. L'application présente de nombreuses failles, blocages fréquents, problèmes d'accessibilité dus à la langue, obstacles à l'alphabétisation, besoin d'une connexion Internet pour l'enregistrement, etc. C'est sans compter les innombrables obstacles auxquels les personnes exilées doivent faire face lors de leur périple migratoire. En arrivant aux frontières des États-Unis, Certaines personnes trouvent refuge dans des zones sans électricité. Les téléphones portables y peuvent être endommagés, perdus, volés. Et pourtant, la seule solution pour demander l'asile, c'est l'application CBP One. Bon, ça fait penser quand même aussi à la numérisation à outrance qui est exercée même en Europe pour des populations vulnérables, populations exilées, mais aussi populations en difficulté et qui n'ont pas accès à l'outil numérique. Hein. Alors, rendre obligatoire l'utilisation de l'application CBP One aux personnes exilées arrivant à la frontière des États-Unis risque de violer le principe de non-refoulement, qui interdit au pays de renvoyer des réfugiés dans des pays où ils risquent des mauvais traitements, comme certaines régions du Mexique. Autre point, la reconnaissance faciale utilisée dans CBP One, lorsque les demandeurs d'asile se connectent à l'application, ils doivent soumettre des données personnelles, comme une photographie qui permettra par la suite d'enrichir les bases de données nourrissant les algorithmes de reconnaissance faciale, ce qui pose de sérieuses questions en termes de respect du droit à la vie privée. Ces technologies de reconnaissance faciale comportent de plus en plus de risques, en plus des risques de discrimination. Et alors, en quoi justement ces technologies risquent d'amplifier les discriminations? C'est que la prolifération des technologies spécifiques au système d'asile et d'immigration risque de perpétuer et de renforcer la discrimination, le racisme et la surveillance disproportionnée à l'encontre des personnes racisées, explique Matt Doui, notre chercheur à Amnesty Tech, spécialisé sur les questions des nouvelles technologies. Des outils comme la reconnaissance faciale entraînée par des personnes réelles comportent de fait de forts biais discriminatoires qui peuvent conduire à des erreurs. Le quatrième outil, c'est aux États-Unis, il y a aussi des miradors aux frontières gérés par l'intelligence artificielle. Donald Trump avait fait de la construction d'un mur sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis une promesse électorale. À la place, il pourrait bien y avoir un mur virtuel. Aux États-Unis, le gouvernement déploie des infrastructures de surveillance intelligente comme des miradors gérés par l'intelligence artificielle le long de la frontière avec le Mexique. De tels dispositifs augmentent le risque de profilage des personnes noires ou latino-américaines. De plus en plus d'éléments indiquent que l'utilisation de la technologie pour surveiller, suivre et intercepter des personnes exilées au cours de leur périple migratoire peut entraîner la mort de certaines personnes qui empruntent des itinéraires plus périlleux pour échapper à la surveillance. Et puis, le dernier outil, c'est aux États-Unis, donc des bracelets électroniques pour les personnes exilées menacées d'expulsion. Donc aux États-Unis, toutes les personnes exilées menacées d'expulsion sont équipées obligatoirement de bracelets électroniques à la cheville. C'est une surveillance en permanence. Le Royaume-Uni a introduit le marquage électronique obligatoire en 2016. La mesure a été étendue aux personnes placées en liberté sous caution en 2021. Et les autorités britanniques peuvent recourir à la reconnaissance faciale via des montres intelligentes, selon une enquête du Guardian. Concrètement, des personnes exilées reconnues coupables d'une infraction peuvent se voir proposer cette montre. Elles devront alors scanner leur visage jusqu'à 5 fois par jour. Objectif, les traquer. En septembre 2022, près de 15 000 personnes avaient été placées sous surveillance électronique au Royaume-Uni, élargissant ainsi le système qui met en péril les droits humains, comme les droits à la dignité et au respect de la vie privée. Les technologies de surveillance séduisent de plus en plus d'entreprises privées et de gouvernements. Les exemples mentionnés ici en sont une triste illustration. Les personnes exilées dont les droits sont déjà extrêmement fragilisés ne peuvent servir de cobaye à l'utilisation toujours plus pernicieuse de ces outils technologiques qui mettent en danger nos droits. Parmi nos demandes, interdire les outils technologiques qui menacent le droit d'asile et interdire strictement la reconnaissance faciale. Et pour agir contre cela, vous pouvez signer la pétition qui est sur le site d'Amnesty contre la reconnaissance faciale en France. Donc des expérimentations de la reconnaissance faciale dans plusieurs villes, vidéosurveillance, algorithmes légalisés par la loi JO 2024.
JO, voilà, les Jeux Olympiques.
Donc la surveillance gagne du terrain en France aussi et nous vous demandons de signer la pétition contre la reconnaissance faciale en France sur le site Amnesty.fr.
C'est ça, bravo Claire Liste, bien tu te rappelles du nom du site.
Et alors juste pour vous dire qu'on va vous reparler bientôt de l'intelligence artificielle, car la dernière chronique qui vient d'arriver, c'est l'IA déjà aux commandes, justice police, administration, l'intelligence artificielle prend la main sur nos droits.
C'est cela. On n'est pas du tout en avance, donc on va passer le deuxième morceau musical.
Non, mais il faut redire tout ça, que les gens se rendent compte aussi.
C'est clair. Et on se retrouve juste après.
برای توی کوچه رسیدم، برای ترسیدم به وقت بوسیدم، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زپرگر و آرزوراش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی اصر و درخت های فسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ های بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای غیر تکراری، برای این همه شون آی تو هاری، برای آوار مونه های پوشانی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای خالص های اعصاب و بیخوابی، برای مرد میخن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود،
برای زن زندگی.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la troisième et dernière partie de son émission, qui va d'ailleurs être très courte, sa dernière partie, puisque la pendule tourne. On vient quand même d'écouter alors le morceau.
Oui, il faudrait que tu nous dises.
Le morceau s'appelle, on l'avait déjà passé, mais sous une autre version. Ça, c'est une version qui a été faite par des artistes français. Et le morceau, c'est un morceau de musique d'Iran, qui s'appelle Barayé, et qui a été composé par un musicien iranien en l'honneur des femmes avec le mouvement Femmes, comment ça s'appelle,
Femmes, vie, femme, vie, liberté.
Femme, vie, liberté.
Et c'est, voilà. Il a déjà oublié,
c'est l'hymne des manifestantes. Quoi,
c'est voilà. Ça, c'est ça. Et le morceau a été repris par des artistes français, c'est ce qu'on vient d'entendre, effectivement. Donc, nos informations locales.
Alors, locales, qu'est-ce que tu nous proposes?
On va se retrouver toujours pour les droits des femmes et pour les droits des femmes en Afghanistan. On vous en parlait au début de l'émission. Parce que les droits des femmes en Afghanistan est particulièrement maltraité par le régime des talibans, inutile de vous le dire. Et donc, on va se mobiliser devant les établissements scolaires, les médiathèques.
On va vous proposer voilà, une petite mise en scène.
Ce sera le vendredi 22 mars prochain, entre midi et 14h. On va faire le tour des lycées et on aura des pancartes, effectivement. On va se prendre en photo, on va appeler la presse.
Le jour, le 8 mars, donc c'était la grève des femmes.
C'est ça.
Et Amnesty International avait choisi de mettre le focus sur le droit des femmes afghanes, la privation de liberté des droits des femmes afghanes. Et dans plein d'endroits, depuis que les talibans ont repris le pouvoir,
elles n'ont plus le droit d'aller.
Donc elles n'ont plus le droit d'aller, vas-y Didier, redis-nous.
À l'école, par exemple.
Dans
les salles de sport.
Elles n'ont plus le droit de sortir seules.
Voilà. C'est ça.
Et donc, dans une manifestation, encore moins. Donc là, le 8 mars, on avait notre pancarte « Femmes afghanes ». Les femmes en Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit d'aller ici. Et puis, à chaque fois qu'on va mettre cette pancarte, il y aura un petit QR code qui vous appelle à aller signer la pétition.
Et avoir des infos sur le site d'Amnesty. Et comme vous n'étiez pas très, très nombreux, si j'ai bien compris.
Non, il
n'y
avait pas la
foule. Et bien là, nous, on va vous montrer tous les endroits où les femmes n'ont pas le droit d'aller. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte.
Donc ce sera devant les médiathèques, devant les lycées d'Evreux, devant l'université, enfin, etc. Voilà. Et donc, on rappelle que cette pétition, effectivement, c'est pour rappeler au gouvernement français, aux autorités et à M. Macron, qu'il s'est engagé à accorder des visas pour les femmes afghanes qui cherchent refuge en France et que ça a du mal, c'est le nombre de ces visas, a du mal à augmenter et que ça continue à être très difficile pour
même
elles.
Même si elles se sont réfugiées au Pakistan.
Et on pense aussi très fort aux femmes qui sont en Iran ou au Pakistan et qui vivent quand même des choses très similaires.
Oui, parce que le Pakistan n'accepte plus les femmes iraniennes qui sont parties d'Iran et c'est très, très compliqué, mais c'est pas normal.
Tout à fait. Donc, effectivement, donc ce sera le vendredi 22, entre 14h.
Et midi et 14h.
Et notre prochaine émission de radio, c'est le mardi 26 à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif, comme deux fois par mois. On vous rappelle qu'il y a beaucoup de podcasts sur le site de la radio, principeactif.net. On vous rappelle aussi pour finir notre adresse pour nous contacter. N'hésitez pas. Notre adresse mail, c'est evreux@amnestyfrance.fr.
evreux@amnestyfrance.fr.
Oui, on va vous quitter un tout petit peu avant l'heure parce que on a une obligation juste après. Voilà, pour ne rien vous cacher. Donc, on se retrouve le mardi à l'antenne de Principe Actif. Le mardi 26 mars prochain. Dans 15 jours.
Eh bien, voilà. En attendant, on va leur dire à tous nos auditeurs.
Bonne soirée,
bonne soirée
à
bonne
tous.
Soirée.
À bientôt.
Au revoir. Et puis, vous allez bientôt avoir le laboratoire qui va.
Avec un petit peu de musique avant le labo, cette fois-ci, exceptionnellement.
Voilà. C'est ça. À très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.